Chapitre 8. Maquillage. Les deux amis ne se voyaient plus. Amoureux comme ils l'étaient, Lucien songeait à peine à cette amitié brisée. Mais Marcel souffrait horriblement de ce froid de glace, augmentant d'un degré chaque jour. Dès qu'il sortait du ministère, il rentrait chez lui, espérant la visite de Lucien. Il attisait le feu, il plaçait sur la cheminée une boîte de cigares, puis il s'asseyait, il marchait, il ouvrait la fenêtre pour le voir plus tôt, il la refermait avec lenteur en murmurant « Peut-être viendra-t-il demain ?» Puis, le front courbé, les bras croisés, il allait s'asseoir dans le fauteuil vide préparé pour Lucien, et il songeait. Fort peu communicatif d'ordinaire à son bureau, il était devenu taciturne. Ses camarades le raillaient et lui conseillaient, pour guérir sa tristesse, le traitement homéopathique de notre amour. Souvent, le soir, il se dirigeait vers la demeure de Lucien. À mesure qu'il s'en approchait, son pas se lentissait comme appesanti par une pensée douloureuse. Il s'arrêtait à la porte et, sur le point d'entrer, il passait outre. « Résistons, disait-il, je ne veux pas l'ennuyer, le désaffectionner plus encore. » S'il voulait revenir à moi, il sait bien qu'il me trouverait toujours. Hélas, j'ai été maladroit, j'ai voulu le convaincre avec des paroles. Les paroles, du vent qui passe, et s'il s'aime, c'est dans le sable ou dans les épines. Puis, caché dans l'angle d'un mur, il restait longtemps, bien longtemps, les yeux fixés sur cette chère maison, où tant de fois il était entré alerte et joyeux. C'était un rideau tiré, une fenêtre à demi ouverte, une lumière, une ombre, lui qui passait dans sa chambre. C'était toujours quelque chose de la vie de Lucien qui venait réchauffer le cœur du pauvre Marcel. Un soir, il était 5 heures, Lucien sortait de chez lui, habillé, ganté, le front penché, rêveur sans tristesse. Il heurta Marcel, ne l'aperçut pas et passa outre en fredonnant l'air, pour tant d'amour, de la favorite. Ce frôlement, quelque léger qu'il fût, renversa presque Marcel. « Il ne m'a pas vu !» murmura-t-il avec angoisse. Puis il reprit à pas lents, bien lents, le chemin de sa demeure. Ce jour-là, Lucien allait chez son élève, Madame Dailly. Il y allait bien souvent, sous un prétexte ou sous un autre. Il venait de lui faire louer un petit atelier qui s'était trouvé vacant dans la maison qu'elle habitait, atelier qu'il avait disposé avec son goût d'artiste, auquel elle avait mêlé, comme une caresse courant sur toute chose, son goût de jolie femme. C'était plus commode pour elle, disait-il, c'était surtout plus intime pour lui. Oh, les bonnes heures qu'on passait dans l'atelier boudoir! On peignait un peu, on causait beaucoup, et pendant ces instants de rien faire, que de chemin l'on faisait! Il apparaissait bien quelquefois dans le demi-jour voluptueux de cet atelier féminin une gênante figure de vieillard. Ce vieillard était un reste de beau, aussi bien conservé que le sont à Paris les hommes de 60 ans qui tiennent à paraître jeunes. Il avait de bonnes manières, il se mettait bien et traînait avec lui une certaine opulence qui se laissait deviner plutôt qu'elle ne se faisait sentir. Il avait été longtemps sans se montrer. Il vint quelquefois, il vint plus souvent, et, laissant peu à peu tomber le gênant décorum qu'il s'était imposé d'abord, le protecteur apparut enfin. Il fit même sentir clairement à Lucien qu'il devait strictement se tenir dans son rôle de professeur s'il voulait continuer à donner des leçons à son élève. Tout cela sans entrer dans la moindre explication, sans jamais dépasser les bornes d'une exquise politesse. Malgré sa grâce, sa distinction même, Madame Dailly avait des hardiesses de laisser aller qu'on seule certaines femmes et qui la classaient irrévocablement. Lucien avait été longtemps sans vouloir se rendre à l'évidence, quelque incontestable qu'elle fût. Quand il était seul avec Madame Dailly, qui, semblant s'abandonner à lui tout entière, l'inondait des langueurs de ses yeux et le grisait de ses baisers, il oubliait toujours à quel monde elle appartenait. Mais, aussitôt que l'ombre refroidissante du vieillard protecteur passait entre lui et sa maîtresse, son front se voilait, ses lèvres pâlissaient. La colère, l'humiliation lui tordaient le cœur. Il voulait rompre, il voulait fuir. Il revenait toujours. Déjà, maintes fois, il avait voulu dire à Madame Dailly « Laisse Monsieur de Renneval et viens avec moi. Je ne suis pas riche, mais je t'aime. Tu n'auras plus de voiture, mais tu auras ma tendresse. » Hélas, il craignait que cette phrase si simple ne fût le dernier mot de leur amour. Pourtant, un matin, après une nuit de fièvre et d'insomnie, Lucien prit la résolution suprême de s'enfuir loin, bien loin de Madame Dailly, et cette résolution prise, il s'en fut chez elle pour lui dire qu'il ne voulait plus la revoir. L'homme est toujours ainsi, souverainement illogique ou profondément diplomate. En présence d'une position difficile, l'un de ses moi entre en pourparler avec la raison. Ils se posent mutuellement des conditions, ils tombent d'accord, mais le second moi, qui ne s'est engagé à rien, refuse presque toujours de ratifier le traité conclu par le moi plénipotentiaire. Lucien était seul avec Madame Dailly. Il voulait lui dire qu'il partait pour l'Italie, qu'il ne boirait plus la volupté sur ses lèvres, et il restait sombre, taciturne. Elle aussi était émue. La mate pâleur de son teint augmentait encore l'éclat de ses yeux. De tumultueuses pensées agitaient son esprit et tant soit peu son cœur. Depuis un quart d'heure, un lourd silence pesait sur eux, silence si complet qu'on entendait une pauvre mouche à demi morte et ranimée par un rayon de soleil bourdonner à la fenêtre. Et leur cœur en suspens frissonnait comme les ailes de la mouche. Soudain, par un bond sauvage de panthère, Madame Dailly s'élance vers Lucien, l'enlace de ses deux bras et l'entraîne sur une causeuse. Aux vibrations des ailes de la mouche s'ajoutent les halètements de deux respirations fiévreuses, s'ajoutent les bruissements d'ardents baisers. Et ils ne se sont rien dit encore. Mais quel chemin rétrograde ont fait les résolutions de Lucien pendant ce silence-là? Depuis qu'il tient dans ses bras cette taille souple, habituée aux provocantes cambrures, depuis que cet œil alangui le brûle de ses ardentes réverbérations, il oublie qu'il devait partir. Il est tout sensuellement à elle. Ce n'est pas assez, elle veut son esprit, elle veut son âme, et les yeux baissés, rougissantes de virginale pudeur, semblant avoir retrouvé dans cet amour toute cette timidité de jeune fille, elle lui dit à demi-voix « Écoutez-moi, Lucien, et vous allez être ou le juge qui condamne ou le confesseur qui pardonne. Car il aime comme le Christ, la femme tremblante et repentie courbée à ses genoux. » Et elle raconta sa vie au jeune homme. Peut-être déchira-t-elle quelques pages de ses mémoires. Elle remplit les lacunes avec des baisers et Lucien ne s'aperçut pas des soudures du récit. Fille d'un officier supérieur, elle avait été élevée à Saint-Denis, où elle avait reçu une éducation brillante, c'est-à-dire brillantée par de nombreuses inutilités qui reluisent comme des paillettes au soleil. Elle était sans fortune, ainsi que le sont la plupart des élèves de Saint-Denis. La gêne vint, le goût du luxe resta, la misère était proche. Alors elle rencontra un homme jeune et riche. Elle l'aima, elle en fut aimée. Elle l'aima d'autant plus, sans doute, qu'il avait serti son amour de diamants et de perles, d'un brio de toilette qui séduit toutes les femmes, même les femmes vertueuses. Il avait été à la veille de l'épouser, mais déjà à moitié ruiné, un peu par elle peut-être, elle en convenait, mais surtout par les chevaux, les steeplechases, les dîners au café de Paris et le reste. Pour établir sa fortune, sa famille le maria à une riche héritière. Elle croyait, comme il le lui avait dit, que malgré le mariage, il lui resterait fidèle. Mais il était sans doute déjà là de son amour, car elle ne le revit plus. Alors elle resta avec son pauvre cœur vide, ses chimères envolées, le luxe dont elle s'était fait une nécessité, et la misère coulant en dessous de ce clinquant, comme une mer envahissante qui montait, montait toujours. Pouvait-elle, disait-elle câlinement, habituer au travail ses mains blanches aux ongles rosés? Pouvait-elle porter la jupe courte de l'ouvrière, elle qui n'avait que des robes traînantes? Pouvait-elle maculer de boue ses petits pieds de chinoise, elle qui avait eu un coupé à ses ordres? Toutes ces impossibilités venaient de l'éducation qu'elle avait reçue, et en l'embrassant, Lucien convenait tout naturellement qu'elle avait raison. À cette heure de désespérance, elle rencontra M. de Renneval. Il était vieux, elle le trouvait laid, elle ne l'aimait pas, mais elle ne voulait plus aimer. Il lui offrait une position confortable, et en retour, comme tous les vieillards, il demandait à sa jeunesse l'illusion des jeunes amours. Elle accepta tout, elle promit tout. Quelle femme, à sa place, prise des mêmes lassitudes de cœur, à la veille de manquer du nécessaire, n'aurait-elle pas fait comme elle? M. de Renneval la séquestra du monde dans lequel elle avait vécu jusqu'alors, et pour occuper son esprit, ce grand fantaisiste qui entraîne toujours le cœur et les sens, il l'engagea à développer ses dispositions naturelles pour la peinture et lui donna un professeur. Elle vivait comme cela depuis 2 ans au jour le jour, qui lui apportait le bien-être matériel au prix d'humiliantes servitudes, n'osant regarder ni dans son passé ni dans son avenir, n'ayant pour se distraire que les voyages avec M. de Renneval, en portant son enfer avec elle comme les damnés de la légende catholique. Un soir au spectacle, elle vit Lucien. Soudain, elle tressaillit et demanda à un ami de M. de Renneval qui l'avait accompagné quel était l'inconnu qu'elle lui montrait du bout de son éventail. Il lui répondit « Mais c'est Lucien Adjer, un peintre de talent et d'avenir. » Aussitôt, dans sa pensée, elle résolut de l'avoir pour professeur et le lendemain, elle s'en fut le prier de lui donner des leçons. Dès ce moment, elle se sentit renaître moralement et physiquement. Elle se livra au travail avec ardeur et ce ne fut point seulement une distraction qu'elle demanda à l'art, ce fut l'indépendance. « Maintenant, fuyons » s'écria-t-elle en enlaçant Lucien de ses 2 bras, en dardant ses yeux sur son front et le consumant de leurs flammes. « Fuyons cette vie mauvaise, notre supplice à tous deux. Fuyons loin de ce vieillard que je ne puis souffrir et dont la vue est pour moi une humiliation constante. » Lucien l'écoutait, pâle, haletant, ivre. Il était agenouillé devant elle comme devant une madone. Jamais elle ne lui a semblé aussi belle, aussi noble, aussi pure même que depuis qu'elle lui a raconté ses souillures qu'elle veut effacer, que depuis qu'elle cherche à reconquérir son indépendance. On a beau dire, c'est dans l'indépendance, l'indépendance réchauffée par un rayon du cœur, que se trouve le véritable prestige de la femme. On retrouve toujours la femelle dans la femme asservie, quel que soit le milieu où l'on place la servitude. Fuir, dit enfin Lucien en sortant de son extase. Oh oui, mais où irons-nous, chère belle? En Italie, n'est-ce pas? Cette terre où les amours sont douces comme le soleil? Mais non, en Russie. Il y fait si froid. Ce ciel du nord tue l'inspiration. Ne le crois donc pas. À Saint-Pétersbourg, on gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Il faut que nous soyons riches. Elle avait beau dire, elle ne pouvait se passer de son luxe. Et puis, dans les lointains de l'avenir, elle voyait, confusément peut-être, se dessiner la silhouette de quelque opulent protecteur. Il pouvait se faire qu'un jour elle n'aimât plus Lucien. Ne faut-il pas songer à tout? Pourtant, elle aimait Lucien autant qu'elle pouvait aimer. Elle était de bonne foi en lui disant « Fuyons ». Ces femmes au cœur mort ont parfois des fougues étranges de sens et de tête, une heure de galvanisation qui fait croire à la vie, à laquelle on se trompe et qui les trompe elles-mêmes. Il y a en elles quelque chose de blasé et d'inassouvi. Elles absorbent, sans le réfracter, l'amour qui vient à elles. On s'acharne à trouver l'oasis, au milieu de ce sable violemment remué par le sirocco. On éprouve, en les aimant, les trompeurs mirages du désert. Voilà peut-être le secret de la fascination étrange qu'elles exercent sur quelque nature. Puis, impuissantes à dominer par le cœur, elles dominent fatalement ce qu'il y a de libertin dans l'homme. Alors elles sont d'autant plus fortes que presque toujours elles restent froides, maîtresses d'elles-mêmes. Plaignons-les. Elles souffrent peut-être autant de la déchéance de leurs facultés affectives qu'elles en font souffrir les autres. Elles voient le point d'où elles sont tombées et se sentent impuissantes à y remonter. Elles roulent, elles aussi, le rocher de Sisyphe.